session de théologie, l'église, sacrement de salut par le père Jean-Marie Arimon, le 27 octobre 95, quatrième cours.
À suivre. Sachant que c'est simplement des... Vous voyez, j'ai fait une sélection hein, qui n'est pas automatiquement très bonne. Hein. Donc, usez de votre perspicacité pour aller lire le reste du texte. Alors, vous voyez, en premier lieu, donc vous avez... Bon, vous aurez... Vous allez bientôt avoir... Voilà, on arrive au bout. Donc, dans première feuille, vous avez un plan. Donc, je vous l'ai développé. Gardez-le, réfléchissez. Ce qui me semble important, c'est de se souvenir de deux choses par rapport à ce plan. Premièrement, c'est son ordre. Vous voyez, l'intelligibilité de l'Église, autrement dit, le propos que le Concile a. Alors là, vous pouvez regarder au numéro 1. Vous avez des petits numéros, donc quand je parlerai du numéro, et vous avez numéro 1 au chapitre 1er, je vous lis rapidement l'introduction. Je commence par la fin de l'introduction, c'est normal. Le Concile se propose de préciser davantage, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Autrement dit, préciser la nature et la mission de l'Église. Voilà le propos de Lumen Gentium. Et cela ne peut pas se faire si on ne se rattache pas au plan de Dieu, comme je le soulignais ce matin, et l'expression Kahal, qui signifie la communauté réunie par Dieu. Donc autrement dit, l'intelligibilité première que j'ai de l'Église, je l'aurai du côté de Dieu et non pas du côté de sa visibilité. Alors ça, c'est un fait important. Donc dans le plan, je vous invite à remarquer ça. Et puis, l'autre aspect, c'est le chapitre 5, l'appel universel à la sainteté, qui est un chapitre très important, qui montre comment l'ensemble du peuple de Dieu est appelé à la sainteté, que la finalité, c'est la perfection. Au dire de cette phrase du Christ, hein, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, l'autre aspect qui est très l'autre aspect que je voudrais souligner, c'est le chapitre 7 et 8. Donc, vous voyez, l'Église tend vers le ciel, l'Église tend vers une perfection. Cette perfection, elle est eschatologique. Donc, ça, c'est ce que développe le Concile. Et en même temps, l'Église a comme moyen surnaturel qui lui est donné, Marie, comme modèle de la croissance. Et là, le texte du chapitre 8 insiste bien, croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Et vous avez fait remarquable un livre du père Marie-Dominique qui s'appelle Le mystère de Marie, qui a été écrit bien avant ce texte, qui justement utilise exactement la même expression, Marie comme croissance de la foi, de l'espérance et de la charité, et Marie comme modèle de l'Église. Donc vous voyez, j'attire cette attention dans la structure de ce texte. Maintenant, je voudrais avec vous lire quelques passages qui me semblent importants. Je ne peux pas tout lire, hein, vu que le temps est compté. Alors, premièrement, et le Christ est la lumière des peuples réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Alors là, c'est quelque chose d'assez important. Vous voyez, l'Église est le reflet du mystère du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et le texte dira un petit peu plus loin. l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement. Alors ça, je vais souligner. C'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Autrement dit, vous voyez, le sacrement, qu'est-ce que le sacrement ? Et le sacrement, c'est la manifestation d'une chose sacrée. Vous voyez, l'étymologie grecque mysterion, autrement dit, le mystère qui est dévoilé, non pas le mystère qui est obscur, hein, confondons pas, le mystère qui se dévoile. Et autrement dit, l'Église, c'est le sacrement, c'est le lieu de la manifestation du mystère du Christ. Comme le Christ est lumière des nations, l'Église, par le choix du Christ, laisse en elle-même resplendir le mystère du Christ. Vous voyez, la nature propre de l'Église, alors ça, c'est quelque chose de très important, ne peut se concevoir qu'en référence au Christ, et que, en tant que structurellement, elle est sacrement du Christ. Et ça, c'est très important, vous voyez. Autrement dit, l'Église, dans sa structure, est sacrement de Dieu. Vous voyez, et la nature propre de l'Église, alors on va le voir à travers cette triple dimension, dimension du Père, dimension du Fils et dimension de l'Esprit-Saint, vous voyez, la structure de l'Église, c'est justement de manifester le mystère de Dieu. Et c'est en ce sens-là que, vous voyez, on peut dire que l'Église, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, c'est pas simplement raffermir le petit club. Et le petit club, on forme un petit club. Il y en a qui sont réunis pour un bridge, ben nous on est réunis pour le Christ, si vous voulez. On forme un club. Vous voyez, c'est pas du tout ça, c'est une prétention par rapport à l'ensemble de l'humanité. Et là, je continue ce texte. Hein. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. L'urgence du temps. Écoutez bien l'urgence du temps. Il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux et par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Et bien voilà l'urgence de l'Église. Vous voyez, on a une unité aujourd'hui qui est une unité technologique, l'ère de la communication, les autoroutes de l'information, quelque chose d'extraordinaire. On est unis par entre Taïwan et Notre-Dame de Rimont, il pourrait y avoir que quelques secondes en images, en son. Vous voyez, là on est unis, c'est quelque chose d'étonnant. On est unis par... On est unis parce que certains d'entre nous, on porte le même habit. C'est une mode. On est unis parce qu'on a le même travail. Est-ce que l'humanité peut être unie par le Christ ? Et ça, c'est la prétention de l'Église. Vous voyez, l'urgence pastorale de ce texte, c'est de dire, mais l'ensemble de l'humanité aujourd'hui est unie par différentes réalités, réalité sociale, réalité technologique. Le Saint-Concile souhaite faire comprendre que la mission de l'Église, c'est d'unir dans le Christ l'humanité. Et là, on voit bien, là, vous voyez, la mission catholique, la dimension catholique de ce texte. Vous voyez, parce que, juste avant, il était dit, l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, et le texte souligne, et de l'unité de tout le genre humain. Et de l'unité de tout le genre humain. Vous voyez, chose importante. Et cela, je peux le dire du fait que je suis dans un regard théologique. Non pas dans un regard empirique, mais parce que je peux regarder comme Dieu regarde. Alors derrière ça, c'est tout le statut, la révélation. On voit ça à deux endroits, dans ce passage de Lumen Gentium, pour ceux qui connaissent un peu le Concile Vatican II, dans un autre passage de la constitution Dei Verbum, où il est dit, dans la constitution Dei Verbum, que par la révélation, nous est manifesté ce que l'intelligence humaine ne pouvait pas concevoir, nous est manifesté les intentions et les volontés de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que le chrétien se situe. Le chrétien ne se situe pas dans un regard empirique en disant, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Non, il prend, la réflexion chrétienne prend son origine dans les intentions de Dieu. D'où la nécessité de comprendre que l'Église ne peut être pour le croyant une réalité qu'en tirant sa propre substance, sa propre structure du plan divin. Et c'est important la différence de regard, parce qu'on pourrait faire une étude sociologique de l'Église. Facile à faire. On en a vu des quantités sur différents diocèses. On a tant de pratiquants, tel milieu, libéral, agricole, commerçant, et ainsi de suite, ils pratiquent pas, la messe des rameaux, le machin, puis voilà. On fait, voilà, l'Église, non. Oui, l'Église ne peut se comprendre que dans un regard théologique. Autrement dit, dans un regard de l'intention de Dieu. voyez ? Et ça, c'est important, parce que seulement dans ce regard, je pourrais assumer la dimension sociologique de l'Église. Et je pourrais aussi assumer toutes les dimensions conflictuelles. Souvenez-vous ce que je vous disais ce matin par rapport aux différents modèles de l'Église. La situation de faillite. On liquide, vous voyez, comme une entreprise, liquidation totale, le stock doit être parti, hein, 50%. Et on voit ça de temps en temps dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins, liquidation. Vous voyez, ça c'est un fait dans certains lieux. Est-ce que à partir de là, je vais induire une théologie de l'Église ? Le Concile nous dit. Parce que justement, une théologie de l'Église ne peut se comprendre qu'en scrutant les intentions de Dieu, en découvrant, comme la révélation le manifeste, les intentions de Dieu. Alors ça, c'est très important parce que ça donne à la révélation son statut véritable. Et la révélation, ce n'est pas une sorte d'annexe qui... Vous voyez, quand je parle de révélation, bon, prenons, pour être simple, l'écriture. Vous voyez, l'écriture n'est pas une sorte d'annexe dans laquelle on va vérifier nos idées. On a une sorte de type génial dans son bureau, un théologien fumeux qui pense un truc, et puis il dit, bon, allons voir si ça correspond à l'écriture. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, on n'a pas une sorte de, je ne sais pas combien de milliers de pères conciliaires, d'évêques du monde entier qui se réunissent, puis on va penser ça, puis après on va... Non. Vous voyez, la source de notre foi, c'est les intentions divines, c'est la volonté de Dieu, c'est la sagesse divine manifestée à travers la révélation. Vous voyez, et ça c'est important parce que c'est le point de départ de toute optique chrétienne. Vous voyez, trop souvent, on a une optique empirique. Il y a telle ou telle difficulté. Bon, ben, cette difficulté va induire telle ou telle réflexion. Alors que ça devrait être tout le contraire, c'est que on ne peut recevoir l'intelligence de notre foi qu'en scrutant les intentions divines. Et là, je vous renvoie à un auteur qui est merveilleux, c'est Saint Grégoire le Grand, et l'introduction au Moral sur Job. Vous verrez, il explique ça très bien. Alors, vous voyez, sachant ça, cette intention divine, quelle est-elle ? Autrement dit, quelle est-elle pour comprendre la nature de l'Église ? Eh bien, le Concile, en 3 chapitres, nous montre cette intention divine, c'est la manifestation du mystère trinitaire. Autrement dit, l'Église est liée au mystère de la Trinité. Souvenez-vous, le modèle pyramidal dont je parlais ce matin, vous voyez, le Christ fondateur, les apôtres, la succession. Vous voyez, là, je suis dans un modèle historique. C'est l'éternité, c'est dans l'éternité que je vais comprendre la nature de l'Église. C'est pas dans la temporalité, temps égale zéro, point de départ, Jésus a dit, Église existe. Non, c'est dans l'éternité de Dieu. Alors, c'est ce très beau passage de saint Paul, hein, il nous a prédestinés à être l'image de son Fils bien-aimé, à être dans le Christ. Hein. Vous voyez, Ephésiens 1, 4, 5. D'ailleurs, que le texte cite. Vous voyez, et ça, c'est très important. Alors maintenant, vous voyez, comment le mystère trinitaire nous dit quelque chose de l'Église ? Alors, rapidement, pour que vous ne soyez pas perdus, hein, là, on veut utiliser ce qu'on appelle les appropriations. Pour ceux qui ont fait un peu de théologie, ils savent tout de suite ce que ça veut dire. Pour les autres, je vais rapidement l'expliquer. Il est clair que quand on parle de la Trinité, on parle de l'unité divine. On ne va pas, vous voyez, quand le Père, il est là-haut, l'Esprit Saint, lui, plane, et puis le Fils, il est dans la boîte, là, parce qu'il y a la lampe rouge. Vous voyez, ne nous imaginons pas, vous voyez, ce genre de choses. Ce qui est important, c'est de voir que le mystère trinitaire, il est un. Ça, c'est clair, c'est l'affirmation. Tu adoreras un seul Dieu. Cependant, il y a cette fécondité au sein même de la nature divine. Cette fécondité, alors je ne vais pas développer la théologie trinitaire, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a d'abord fondamentalement cette unité. Et on va approprier à chacune des personnes divines un aspect particulier. Et qu'est-ce qu'on approprie au Père ? Eh bien, ce qu'on approprie au Père, c'est il est source de toute chose. C'est celui qui envoie, c'est le commencement. C'est celui qui envoie son Fils. Vous voyez, mais le terme envoyé, vous voyez, c'est la source. Le Père, c'est la source. Mais le Fils, c'est l'envoyé. On va approprier au Fils cette mission, il est l'envoyé. Et puis on va approprier à l'Esprit Saint la sanctification. Là, je vous invite, hein, pour ceux qui aiment et connaissent saint Thomas, vous savez, le petit livre de débutant, là, où il y a des images, ben vous verrez, dans la prima part, saint Thomas parle, dans, alors je ne sais plus quelle question, c'est vers la question 40 quelque chose, vous verrez, saint Thomas parle des appropriations. Et là, particulièrement, on va développer cette théologie des appropriations en disant, ben voilà, le Père qui est-il ? Il est à l'origine de toute chose. Le Fils qui est-il ? Il est celui qui est envoyé et qui vient accomplir la rédemption. L'Esprit Saint qui est-il ? Il est celui qui vient sanctifier et achever le mystère de la rédemption. Et dans cette lumière, on va regarder le mystère de l'Église. Mais c'est très important. Autrement dit, dans la lumière du mystère trinitaire, on va regarder le mystère de l'Église. Alors, vous voyez, là, ça demande un peu une théologie contemplative, non pas une théologie pratico-pratique. Et autrement dit, un catéchisme. Hein. Vous savez, le catéchisme, c'est... la Trinité, c'est quoi ? Une nature, trois personnes en une nature. Bon, très bien, oui, et bon. Là, on n'a rien dit, vous voyez. Là, il n'y a rien de contemplatif. On a dit des choses, vous voyez. Ce qui est important, c'est... Vous voyez, ce regard ne peut être vécu uniquement par le croyant qui désire rentrer dans une connaissance du mystère de Dieu. Ça, je ne sais pas si vous le saisissez, cette, vous voyez, cette dimension de gratuité de l'intelligence et cette dimension de quête de l'intelligence qui est fondamentale pour comprendre ce texte. Vous voyez, d'une certaine façon, on pourrait dire à la lecture de tout ça, mais oh là là, que c'est beau, c'est bien ordonnancé, c'est oh là là, la belle bleue, la belle rouge, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est... Non, la question, ce n'est pas de bien ordonnancer les choses, la question, c'est de rentrer dans un regard de contemplation, vous voyez, sachant que, vous voyez, contemplation venant de Théorène, c'est regarder, mais en tendant vers, et pas simplement en étant assis, mais c'est en tendant vers, et en devenant ce que l'on regarde. Mais ça, c'est toute la gratuité hein, de la foi chrétienne, qui n'est pas immédiatement pratico-pratique. Vous comprenez ça un petit peu ? C'est important. C'est pour ça que je souligne ça, parce que le danger, c'est de dire, bon, c'est très beau, mais tout ça, ça sert à quoi ? Ben, je vous dis, ça sert à rien, en tout cas pour faire cuire les œufs. Mais par contre, ça sert à quelque chose, parce que c'est la contemplation du mystère de Dieu. Mais dans ce sens-là, ça sert au quoi que. Alors, voyez, le numéro 2. Le dessein du Père qui veut sauver tous les hommes. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Vous voyez, c'est important de voir qu'à l'origine, nous sommes dans la gratuité divine. À l'origine de toute chose, il y a la gratuité de Dieu. Vous voyez, et ça, c'est fondamental pour le croyant. Et c'est aussi fondamental, d'ailleurs, pour tout homme. Hein. Vous voyez, nous sommes dans la gratuité de Dieu, en toute chose. Vous voyez, et cette expression, hein, disposition absolument libre. La création n'est pas quelque chose de nécessaire du côté de Dieu. Autrement dit, vous voyez, ne nous imaginons pas ce vieillard avec sa barbe qui se dit, bon, je suis un peu seul, hein, je vais faire quelque chose pour m'amuser. Vous voyez, non, 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 vous voyez, c'est pas ça l'acte de création. L'acte de création, c'est un acte d'amour. Autrement dit, de pure liberté, de pure bonté du côté de Dieu. Mais chose étonnante, c'est il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Alors ça aussi, c'est très important. Vous voyez, le choix de Dieu, c'est la création, oui. Mais dans cette création, il y a quoi ? Il y a l'homme. Et l'homme, il est créé pour quoi ? Eh bien, il est créé pour qu'il puisse devenir Dieu. Alors, vous voyez, là, ça fait un peu brutal comme... Alors, c'est la brutalité d'un saint Augustin. Hein. Dieu se fait homme afin que l'homme devienne Dieu. C'est la brutalité de toute la spiritualité orthodoxe. Vous voyez, sur les énergies divines, par exemple. Et ce qui est important, c'est de voir que dans cette création, l'homme a une place particulière, il est appelé à vivre de la vie de Dieu. Alors, vous voyez, et cet appel sera constant malgré tout. Alors, je ne vous lis pas le texte, hein, vous voyez, toute l'histoire du salut, la chute, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de voir que, vous voyez, la disposition gratuite de Dieu dans sa création, implique une particularité pour l'homme. Cette particularité, c'est la vie divine. Et donc, l'homme a une spécificité par rapport à l'ensemble de l'univers, par rapport à l'ensemble de la création. Vous voyez, à l'origine, il en était ainsi. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et de fait, vous voyez, alors, je passe un petit peu le texte jusqu'à la fin de la citation de l'Épître aux Romains. Vous voyez, de fait, toute la chute et toute l'histoire du salut n'a pas aliéné cette origine. Ça, c'est important de le comprendre. Au contraire, Il est dit à la suite, « Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église qui annonçait en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint et au terme des siècles se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les saints pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se retrouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. » Vous voyez, on a l'ensemble de l'économie du salut, le passé, le présent, le futur, tout ça récapitulé dans le salut des hommes. Voilà. Et l'Église, elle est là. L'Église, elle est là dans l'intention de Dieu. L'Église, ce n'est pas d'abord la petite construction, ce n'est pas d'abord le prêtre, l'évêque et le pape. Non. L'Église, c'est les élus récapitulés. Les élus sauvés. C'est ça, l'Église, du côté de l'intention de ce Père, du côté de... Et du plan initial, c'est pas très juste parce que le plan initial c'est un peu métaphorique, mais si vous voulez, du côté de l'intention divine. Il est important de comprendre, vous voyez, que l'Église dans le regard de Dieu, c'est avant tout l'humanité sauvée. Alors bien sûr, ça va se faire dans un devenir. Ce devenir, c'est toute l'histoire du salut, et ce devenir, il culmine en ces temps les derniers, hein. L'épître aux Hébreux, le début de l'épître aux Hébreux, et c'était dans les derniers, c'est le mystère de l'incarnation. Parce que depuis le mystère de l'incarnation, la fin des temps est commencée. Ça, c'est clair, on voit ça précisément chez saint Paul, et puis l'épître aux Hébreux nous le manifeste aussi. En ces temps qui sont les derniers. Alors, vous voyez, sachant qu'un jour, ça peut être 1000 ans, ça peut être un jour. Donc, c'est la sainte espérance. Alors, vous voyez. Après ça, vous voyez, cette manifestation dans la plénitude des temps, qui est le mystère d'incarnation, qu'est-ce que ça réalise du côté de l'Église? Premièrement, vous voyez, l'incarnation inaugure le royaume. Le royaume, c'est la présence du ciel sur la terre, c'est la révélation du mystère de Dieu, cela accompli dans la rédemption. Alors, je ne vous lis pas le début, je voudrais simplement souligner quelque chose. L'Église qui est le règne de Dieu déjà mystérieux. Vous voyez, dans le numéro 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne. L'Église qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présente opère dans le monde par la puissance de Dieu, sa croissance visible. Autrement dit, vous voyez, l'Église est le lieu par lequel le mystère de la rédemption va s'accomplir. Tout à l'heure, on parlait de signes, d'instruments, on parlait de sacrements. Là, on parle de manifestation du royaume, des manifestations de la rédemption. Vous voyez, l'Église est le lieu dans lequel la rédemption va pouvoir se réaliser. On ne parle pas encore d'institution, vous voyez, on est encore loin du mot Église, bâtiment, structure personnelle, ainsi de suite, ou hiérarchie, non. C'est le lieu où le royaume se réalise. Et il se réalise où, hein? Il se réalise dans le devenir, hein, comme le dit le texte, il opère dans le monde. Et alors, chose très importante, alors je vous laisse aussi lire la suite, hein, si on veut un petit peu avancer. Vous voyez, le lieu où s'opère cela, c'est le lieu, c'est l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'Eucharistie. En tant que le sacrement de l'Eucharistie constitue le corps du Christ et donc constitue la communauté. Vous voyez, ce qui est très important, on n'est pas encore dans, vous voyez, ne pensez pas, hein, là quand on parle Église, ne pensez pas unité de bonhommes qui vont essayer de s'organiser. On n'en est pas encore là. Vous voyez, on est dans le dessein de Dieu. Alors après, chose importante, vous voyez, là, je saute au numéro 4, hein, l'Esprit qui sanctifie l'Église. Il est manifesté. Oui, le rôle de sanctification, autrement dit, l'Esprit est la vie, il est pour nous. Il est celui par qui le Père donne la vie à tout homme, hein, nous dit le texte du Concile. Et il est surtout celui qui habite dans l'Église. Et à cela, on va. Vous voyez, il habite dans l'Église, autrement dit, il est celui qui va prier, il est celui qui va attester la condition d'enfant de Dieu, autrement dit, il est celui qui dirige l'Église. Et le texte alors souligne un petit peu à la fin de la page, vous voyez, il équipe et il dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, il ordonne ses fruits. Donc là, vous voyez, vous avez tout ce que j'ai souligné par rapport à l'Épître aux Corinthiens. En comprenant que, vous voyez, l'Esprit-Saint est celui qui achève et qui va rendre manifeste part, et ce qui est très important, c'est que, vous voyez, la dimension visible et hiérarchique sera beaucoup plus pneumatologique que christologique. Autrement dit, vous voyez, la structure ecclésiale est beaucoup plus liée à la vie de l'Esprit-Saint qu'à la vie du Christ. Parce que, vous voyez, la vie du Christ, au point de vue initialement, est celui qui opère le salut. L'Esprit-Saint est celui qui va le rendre présent et celui qui va l'achever. Vous voyez, et c'est très important parce que ça évite de rester dans le structurel à un modèle purement historique. Parce que l'Église, alors ça c'est la grande affirmation du Père Congar, vous voyez, l'Église avant d'être christologique, elle est pneumatologique. Bon, pour ceux qui font un peu de théologie, vous comprendrez. Pour les autres, dites-vous que c'est important. Alors, on va passer, non excusez-moi parce que je vois l'heure qui passe, là il me reste plus qu'un quart d'heure. Donc j'aimerais passer rapidement au numéro 8, donc la page suivante. Simplement pour souligner, vous voyez, le fait, alors, vous voyez, j'ai sauté quelque chose d'important, le peuple de Dieu. Alors, c'est très simple, hein, je vous l'ai rapidement expliqué, autrement dit, c'est l'unité du dessein de Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Bon, après, dans ce peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Mais je voudrais souligner, vous voyez, la visibilité et la dimension spirituelle de l'Église. Alors, je vous lis un tout petit passage, hein, qui commence quatre lignes après le début. Vous voyez, cette société organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Alors ça, c'est très important. Là-dessus, je vous renvoie au livre du cardinal Journet sur l'Église du Verbe incarné. Vous voyez, autrement dit, cette double dimension, nature divine, nature humaine, que l'on voit dans l'unité de la personne du Christ, de la même façon, dans l'unité de l'Église, il y a cette dimension céleste, cette dimension spirituelle, il y a aussi cette dimension terrestre, cette dimension temporelle. Et l'important, c'est comme dans le mystère de l'incarnation, oui, l'analogie, oui, c'est une analogie, hein, l'important, c'est de tenir les deux dans une certaine unité. L'unité pour le mystère de l'incarnation, c'est clair, c'est la personne divine, donc la personne du Verbe de Dieu, dans laquelle subsiste la nature humaine. Bon, ça, bon, c'est le langage théologique, hein, excusez-moi, parce que ça peut être un peu compliqué. Et pour l'Église, vous voyez, l'unité des deux, c'est de comprendre que la réalité, c'est le corps eucharistique. Vous voyez, cette réalité qui est en même temps visible et en même temps spirituelle, alors là, je vous renvoie à Corporis Mystici, cette réalité, c'est l'Eucharistie qui va la fonder. Autrement dit, vous voyez, dans l'unité eucharistique, vous avez en même temps la manifestation visible et en même temps la manifestation spirituelle. Vous voyez, du fait de l'élément physique qui est signe de la réalité spirituelle. Vous voyez, il est important de voir que, et quand on dit l'Eucharistie, c'est le centre de l'Église, ben, il y a une raison. Hein. Vous voyez, d'une certaine façon, l'Église sans l'Eucharistie, il n'y a plus d'Église. Mais non pas parce que c'est cultuel, mais théologiquement. Vous voyez, l'unité du visible et de l'invisible se situe dans l'Eucharistie. Vous voyez, comme constitution du corps mystique. Alors là, je vous renvoie à toute la... Donc, je passe pour aller un petit peu plus loin. Vous voyez, après, page suivante, le numéro 18, et la hiérarchie de l'Église et spécialement de l'épiscopat. Alors, vous voyez, pour l'autorité, là, c'est une réflexion que je voudrais vous permettre de faire à la suite de ce texte. Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. Et première chose, on commence à parler d'un bien de tout le corps, un bien commun. Autrement dit, la hiérarchie ne pourra se comprendre qu'en fonction d'un bien commun. Ce bien commun, quel est-il? On va juste en parler dans quelques secondes. Ça, c'est la première chose. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères. Du fait du bien commun, le ministre qui dispose d'une autorité est au service de son frère. Vous voyez, la résolution des complexes dont je parlais ce matin, tout ce qu'on voit actuellement dans l'Église, qui est une sorte de crainte de l'autorité, où on veut tout aplanir, la sainte démocratie, vous voyez, et personne décide. Moi, j'ai assisté, je vous assure, pendant 2 ans à des réunions de responsables pastoraux, mais c'était clair, c'était le lieu où on s'inhibait mutuellement. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une autorité. Et donc, il ne faut surtout rien dire. Il faut tout dire en disant rien. Et ça, c'est vrai qu'on a, on a quand même un problème énorme face à l'autorité. Il faut le reconnaître. Il n'y a que dans le milieu professionnel où on accepte d'avoir... Parce qu'il y a le truc de paye et puis on a intérêt. Mais oui, et dans l'église, l'autorité, attention. Hein. Quand quelqu'un dit tape sur la table, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce tortionnaire ? Vous voyez, et je crois que c'est important de voir que vous voyez, l'autorité, service du bien commun, service de ses frères. Là, il y a une vraie réflexion. Il y a une réponse du Concile, à mon avis, qui est intéressante. Alors après, faut-il pouvoir la digérer, hein. Là, je parle plus pour les frères et les sœurs, vous voyez, la digérer dans un regard philosophique. Parce qu'il est clair que il y a toutes ces... J'espère que le Père Marie-Dominique pourra en parler, mais toutes ces problématiques, vous voyez, la peur de l'autorité, la destruction de la hiérarchie, toutes ces choses qui font qu'on est dans une sorte de flou artistique, hein, toutes ces erreurs idéologiques, hein, c'est des erreurs philosophiques. Hein, rarement des erreurs théologiques. C'est que philosophiquement, il y a quelque chose qui est bancal. Et à partir du moment où une pensée communautaire est bancale, mais automatiquement, ça a des répercussions sur l'Église. Si on pense la communauté comme une sainte démocratie dans laquelle il n'y a plus d'autorité, mais il est clair qu'on pensera l'Église comme ça. Si on pense l'Église dans un saint totalitarisme, on pensera l'Église comme ça. Vous voyez, quelle est la justesse d'une pensée philosophique et quelles sont ses erreurs ? On fait un grand saut encore, on va au numéro 30. Chapitre 4, les laïcs. Alors ça, c'est important parce que qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? C'est quand même intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Premièrement, ce laïc, eh ben, il est comme tous, il est membre du peuple de Dieu. Ça, c'est déjà important, ça, c'est l'affirmation. Bon, je n'ai pas pris les textes parce que ça aurait été un peu trop long, mais de l'affirmation sur le peuple de Dieu dans le chapitre 2 de Lumen Gentium. Alors, je vous lis simplement quelque chose qui est un passage qui est très intéressant, qui s'adresse aux prêtres et à la hiérarchie. Alors, c'est au milieu du numéro 30. Ils savent, c'est-à-dire les prêtres, qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assurer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres de ceux-ci, de telle sorte que tout le monde, à sa façon et dans l'unité propre, et dans l'unité, apporte son concours à l'œuvre commune. Autrement dit, c'est une invitation au ministre de comprendre, oui, effectivement, il doit avoir la sollicitude de faire telle ou telle chose, mais par lui-même, il ne peut pas tout faire. Et autrement dit, il est invité à penser l'organisation de ce corps parce qu'il en a la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce de gouvernement. Alors ça, c'est repris un petit peu plus loin. Quand on parle des évêques. Mais la grâce du gouvernement, c'est la capacité d'ordonner ce corps. Et il est clair que l'ordonnancement de ce corps ne peut pas se faire sans celui qui n'est pas ministre ordonné. Vous voyez, autrement dit, la fonction du laïc, c'est de participer à la vie du corps ecclésial avec sa spécificité propre. Et un texte un petit peu plus loin nous dit la spécificité propre, c'est l'insertion dans le monde. Alors, je voudrais pour ça vous lire un tout petit passage qui est parallèle. C'est Gaudium et Spes, chapitre 43. Excusez-moi. Non, pas chapitre. Numéro 43. Alinéa 2. Alors je vous lis rapidement, vous voyez. Au laïc revient en propre, quoique non exclusivement, les professions et les activités séculières. Lorsqu'ils agissent, soit individuellement, soit collectivement, comme citoyens du monde. Ils auront donc à cœur non seulement de respecter les lois propres à chaque discipline, mais d'y acquérir une véritable compétence. Un laïc compétent. Vous savez, Saint-Joseph, là, serviteur, compétent. Compétent. Le laïc, c'est quelqu'un de compétent dans les activités séculières. Vous voyez, donc pas besoin d'être malade si on n'est pas compétent dans, une disputatio théologique sur l'hypocatastase chez Origène. C'est pas gênant si vous n'êtes pas compétent là-dedans. Mais par contre, si vous n'êtes pas compétent dans la dimension séculière, là, il y a un problème. voyez, c'est important de comprendre ça, parce que souvent, on voudrait que, quand on est légue, on voudrait être compétent. Combien j'entends dire, mais oui, il faut à tout prix que je suis des cours de théologie, il faut à tout prix. Oui, pour nourrir notre vie chrétienne, oui, pour... Mais notre vraie compétence là-dedans, elle est où? Mais notre vraie compétence, hein, c'est invitation, nos activités séculières. Notez, je dis ça en passage, hein. Ils aimeront collaborer avec ceux qui poursuivent les mêmes objectifs qu'eux, conscients des exigences de leur foi et nourris de sa force, qu'ils n'hésitent pas, au moment opportun, à prendre de nouvelles initiatives et en assurer la réalisation. C'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. Écoutez bien, c'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. Et là, il y a un très beau passage que je trouve excellent au sujet des prêtres. Écoutez bien. Qu'ils attendent des prêtres lumière et force spirituelle. Mais écoutez la suite, c'est remarquable. Qu'ils ne pensent pas pour autant que leur pasteur ait une compétence telle qu'il puisse leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission, mais plutôt éclairés par la sagesse chrétienne, prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Numéro 43, alinéa 2 de Gaudium et Spes. C'est un texte important, à mon avis, qu'il faut de temps en temps lire. Aussi bien pour le prêtre que pour tout laïc. Alors, maintenant, on va faire un saut rapide, hein, au numéro 40. Excusez-moi, hein, de ces bons et peut-être de l'incohérence organique de ma présentation. Voyez, l'appel universel à la sainteté. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Très bien, peuple choisi par Dieu, très bien. Peuple de Dieu, très bien. Communion, très bien. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Eh bien, le Saint-Concile nous répond. Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a enseigné à tous et chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont il est à fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Autrement dit, tout ça, eh ben, c'est dur à dire, mais c'est pour la perfection. Et alors là, on revient à la discussion de ce matin sur les saints. Alors, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, après la citation de l'évangile de Saint Jean, où il est dit « Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein. » Écoutez bien, « Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus-Christ notre Seigneur. » Autrement dit, la perfection, souligne le Concile, vient de l'appel de Dieu. Même chose que je soulignais tout à l'heure, hein, ce matin, la sainteté vient de l'appel de Dieu. Vous voyez, il n'est pas question d'une perfection d'intégrité humaine, intégrité morale. Mais je crois que ça doit nous libérer, ça. Alors, oui, attendez, dans le bon sens, hein. Vous voyez, comprenons-le. Vous voyez, il s'agit tout simplement d'une perfection parce que on est élu, on est choisi par Dieu. Alors, après, je vous lis la suite. Les disciples du Christ sont véritablement devenus. Le terme, hein, sont véritablement devenus. Vous voyez, ce n'est pas intentionnel. Hein. On n'est pas parfait intentionnellement. On est véritablement devenus, dans le baptême de la foi, fils de Dieu. Rien que ça. Participant de la nature divine. Rien que ça. Et par conséquent, réellement saint. Alors là, c'est très beau parce que ça change complètement notre manière de regarder les choses. Alors, pour ceux qui connaissent un peu saint Thomas, je les renvoie au commentaire de l'Épître aux Galates, où une partie du commentaire de saint Thomas porte sur cette question. Que signifie la justification? Et alors, la justification ne signifie pas obtenir soi-même justice, mais c'est de recevoir la justice de Dieu. Autrement dit, se sanctifier n'est pas d'atteindre la sainteté, c'est de la recevoir de Dieu. Et toute la vie chrétienne, nous dit saint Thomas, consiste à la garder. Et d'ailleurs, le texte du Concile continue. Et par conséquent, vous voyez, cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever. Vous voyez, on est une communauté de parfaits. Ça, c'est extraordinaire, parce que Dieu nous a choisis. La seule chose, c'est de vivre selon cette perfection. non pas de vivre selon une justice où par nous-mêmes nous allons pouvoir atteindre une perfection, une intégrité, mais vivre de la perfection divine, c'est la perfection de la charité, et de faire en sorte qu'on ne la perde pas. C'est ça le combat chrétien. Le combat chrétien n'est pas d'obtenir le ciel, le combat chrétien c'est de le garder. Oui, le combat chrétien n'est pas de devenir saint, le combat chrétien c'est de le rester, ce qui est très différent quand même. Oui, et trop souvent on nous représente la sainteté comme l'acquisition d'une perfection morale ou ainsi de suite. Non, 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 c'est tout simplement garder l'élection divine dans notre cœur. Oui, quand je parle d'élection, j'espère que ça choque personne, hein. Pas au sens de luthérien du terme, hein, c'est-à-dire l'élection qui implique donc l'exclusion de l'autre, hein, mais l'élection au sens paulinien du terme, hein, c'est-à-dire tous nous sommes appelés. Vous voyez, et autrement dit, vous voyez, il consiste la perfection chrétienne consiste à garder l'appel de Dieu. Vous voyez, ça change complètement les choses. On n'a pas à devenir, on a à rester, ce qui est très différent. Et alors là, il est très très important, vous voyez, il est souligné aussi le besoin de la miséricorde, parce que je lis un peu la suite, cependant, comme nous nous rendons tous fautifs en bien des points, nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous devons tous les jours dire dans notre prière, pardonne-nous nos offenses. Mais la suite, écoutez, est très importante. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ. Et ça, c'est étonnant parce que c'est fait pour tous. Vous voyez, la perfection, alors là, c'est aussi un des soucis du pape Jean-Paul II dans l'encyclique sur la splendeur de la vérité, montrer que la perfection, eh ben, elle est faite pour tout le monde. Et c'est pas simplement optionnel. Bon, alors, il est clair que c'est normal pour une religieuse d'être plus parfaite que pour une mère de famille. Mère de famille... les vœux religieux, on a opté pour le chemin de la perfection, donc il est normal. Vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre ce qu'est la conception de la perfection chrétienne. C'est la plénitude du mystère du salut dans notre vie. C'est ça la perfection chrétienne. Et bien ça c'est fait pour tout le monde, il n'y a rien à faire. Bon alors l'intégrité plus ou moins, le fait qu'on soit capable de faire un 100 mètres ou qu'on marche sur la tête, ça c'est autre chose si vous voulez. Ça, bon, il y a des gens qui marcheront toute leur vie sur la tête, d'autres qui seront toujours en train de courir, d'autres qui seront toujours en train de prendre des trains, d'autres qui seront toujours en train d'éplucher les cartes. Bon ben voilà, bon c'est pas grave, ça c'est une particularité qui a peu d'importance. Alors, vous voyez, de tout ça, puisqu'il faut conclure, hein, je suis désolé de ne pas avoir plus de temps, malheureusement. Je voudrais terminer en soulignant la dimension eschatologique de l'Église. Je pense que le père Marie-Dominique vous parlera de Marie, du moins je pense, donc je ne vais pas le souligner. Mais cette dimension eschatologique implique un ordre vers, et ça aussi c'est très important. Comprendre que, vous voyez, l'Église va vers un achèvement, et cet achèvement, il n'est pas présent actuellement. D'où toute la situation d'attente de l'Église. Vous voyez, l'Église est en attente. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dimension eschatologique. Elle attend le retour du Seigneur, elle attend la plénitude du salut. Vous voyez ? Et ça donne un statut de viator. Autrement dit, on est en pèlerinage constant, on est en attente d'achèvement. Et ça aussi, c'est le mystère de l'Église. Existentiellement, l'Église doit englober en elle-même l'eschatologie. À partir du moment où l'eschatologie n'est plus présente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va se fixer dans les réalités terrestres. Et on voit bien. Vous voyez, alors, pour terminer, une petite anecdote pour vous montrer que de temps en temps, on peut faire de la théologie en racontant des petites histoires. Comme ça me permettra de raconter une petite histoire pour terminer. L'évêque de Moulins. Inquiet, parce que pas de vocation, ainsi de suite, catastrophe, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Bon, première fois qu'il voit Jean-Paul II, il dit oh, pff, très sympa, vraiment. On est nul, on n'arrive à rien. C'est l'évêque complètement déprimé. Alors, mais en plus, lui, quand il l'est, c'est vraiment bien. Et alors... non, mais c'est-à-dire, c'est... Bon. Et il dit, mais on n'a pas de prêtre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Saint-Père lui a répondu, mais Monseigneur, c'est pas de votre faute, ça. Alors, tu dis, ah bon? C'est pas de ma faute, ça. C'est pas de votre faute, ça. C'est de la faute du peuple de Dieu. Et pourquoi donc? Parce que le peuple de Dieu, aujourd'hui, ne désire plus le ciel. Et quelle est la raison propre du prêtre? C'est de conduire les gens au ciel. Il dit, si vous avez une communauté qui n'espère plus du ciel, qui est simplement dans le temporel, il dit, si vous avez une communauté qui n'est plus eschatologique, eh bien, à quoi ça sert un prêtre? Ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que, justement, le prêtre, il est là pour orienter vers. Alors là, il était tout content quand il m'a raconté ça, il m'a dit, oh là, t'es sorti de là, moins angoissé. Vous voyez, et c'est vrai, à partir du moment où on retire la dimension eschatologique de l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous invite à lire un livre d'un dominicain qui s'appelle Alain Durand, La cause des pauvres. Voilà ce qu'on fait dans l'Église. Comment dire, on fait une sorte de brasserie moderne dans laquelle on prend modèle sur le temps présent. Alors, je vous répéterai cette parole de Saint Paul, hein, et à mon avis, elle est applicable à une théologie de l'Église. Ne vous modelez pas sur le temps présent, mais conformez-vous au temps qui vient. C'est tout. Autrement dit, conformez-vous à celui que vous attendez. Voilà. Merci pour votre attention.